J'en profite pour vous souhaiter, maman, bonne fête. On souhaite bonne fête à maman ensemble. Bonne fête à toutes les mamans ici, là. On a plusieurs cadeaux pour vous, maman, ce matin. Vous allez remarquer peut-être qu'il en reste quelques-uns ici, mais il y en a à l'arrière. On en a en masse. On en a 500 environ. C'est un calendrier. La bonne semence. Vous allez dire, c'est un peu tard dans l'année, il me semble, au mois de mai, d'avoir un calendrier, mais c'est plus qu'un calendrier. On a eu l'occasion de mettre la main sur le calendrier de la bonne semence. C'est une pensée chaque jour, donc il y a vraiment un court message à chaque page, chaque date. Donc, c'est vraiment édifiant. On vous encourage à vous prévaloir de ça. Vous avez juste à vous rendre au kiosque à la fin du service. C'est gratuit, on vous le donne, ça va nous faire plaisir. On aimerait vous remercier tous ceux qui sont venus hier, ceux et celles qui sont venus hier pour la rénovation, pour tout l'entretien, faire du ménage et tout ça. C'était vraiment beau de voir tout le monde travailler, peinturer et tout ça. Vraiment fait un beau travail. Vous avez remarqué aussi en arrière le café, le comptoir café. Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais j'aimerais simplement remercier tous ceux qui sont venus pour faire la rénovation et l'entretien du printemps hier. Une merci toute spéciale à notre frère Robert. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la cuisine. C'est fantastique, la cuisine qui est juste là. Robert, je veux que tu te lèves. Je sais que tu es bien gêné, timide, là, humble. Là. Mais merci. Non, tu peux faire mieux que ça. Là. Lève-toi, montre-toi ton visage. Tout le monde te voit. Je veux que les gens te voient comme il faut. Lève-toi un petit peu. Là. Reste debout. Là. Je veux que tout le monde le voit. Là. Ah, c'est fameux, vraiment, quelle cuisine. C'est une cuisine complètement neuve. Vous pouvez juste comme sortir et aller passer peut-être bien vite par là-bas pour aller voir les armoires. C'est fameux. Merci à Robert, merci à tout le monde qui ont travaillé cette semaine, toute la semaine. On travaillait fort et hier, surtout pour le ménage du printemps. Aussi, je veux souligner la présence de monsieur et madame Côte-Noir. Ce sont des habitués. Ils sont venus. Levez-vous, s'il vous plaît. Juste vous présenter. Gabriel Côte-Noir, madame Côte-Noir, Anita. Il y a deux fêtes? Eh bien, bonne fête deux fois! Les Côtes-Noires qui sont vraiment des bâtisseurs de l'Évangile ici au Québec, de tout le royaume de Dieu ici, notre association d'Église Baptiste, bon, ils ont implanté des églises, ils sont occupés depuis plusieurs... Dans le ministère, combien d'années? Aïe, 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 gloire à Dieu. C'est bon, merci beaucoup. Ouais. Dans les années où on mettait les gens en prison, c'est dans les années où on mettait les gens en prison pour donner des Bibles, porte en porte, c'est incroyable. Ben merci. Merci pour le beau ministère que vous avez eu au Québec et merci pour tout ce que vous avez fait. On est un peu le fruit, hein? Vous voyez, quand ils voient des églises grandir, fleurir, sont heureux parce qu'ils sont tellement investis à voir des églises grandir, comme je pense au M. Alexanian, Mme Alexanian, des pionniers, vraiment des bâtisseurs au Québec. Et on leur doit, on a une dette, hein, comme Paul dit, hein, une dette spirituelle envers ses frères, ses sœurs qui se sont investis ici. Cadeaux. Moi, j'aimerais vous parler des cadeaux. Vous avez les calendriers ce matin. Tout le monde, vous pouvez, c'est pas juste au maire, tout le monde, vous pouvez aller chercher un calendrier ici au kiosque en arrière. Mais vous avez remarqué qu'il y a un comptoir café en arrière. Maintenant, c'est fameux. On m'en a donné un ici dans le service au début, le premier service. C'était vraiment super. Le café ordinaire, c'est des dons volontaires, donc c'est gratuit. Puis vous donnez ce que vous pouvez ou ce que vous voulez pour le café ordinaire. Pour le café spécialisé, aromatisé, tout ça, il y a des frais pour ça, prédéterminés, ça va être écrit sur le tableau, toutes sortes de saveurs. Moi, j'ai pris une nouvelle résolution, il n'est jamais trop tard, j'ai pris une nouvelle résolution pour 2014, je me suis dit, cette année, je vais essayer toutes les saveurs de café qu'on offre en arrière. Donc, n'hésitez pas à aller au café. Ce matin, on n'aura pas le café après le deuxième service. On va l'avoir après. On va l'avoir avant le premier service, entre les deux services. Donc, si vous voulez avoir un bon café, vous arrivez plus tôt. D'accord? Entre les deux services. Parce qu'après, ça demandait, parce qu'il faut tout nettoyer les machines et tout ça. Donc, c'était trop engageant. pour l'équipe qui en ce moment. À mesure que l'équipe va grandir et tout ça, on verra pour changer les choses. Si vous êtes ici, vous nous visitez pour la première fois ce matin, on a deux genres de cadeaux pour vous, spécialement. On a un cadeau qu'on donne à tous les nouveaux qui viennent nous visiter. Vous avez juste à vous rendre au kiosque et vous dites que vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous visitez l'Église. Et puis, on va vous remettre un beau kit là pour les nouveaux. Mais non seulement ça, ce matin, vous avez bien fait, c'est le bon matin de venir, parce que ce matin aussi, on va vous donner une tasse en cadeau avec du chocolat belge. Ah, je vous dis. Hein? Ben oui. Mais s'il y a des nouveaux, vous pouvez venir me voir, je vais vous accompagner au kiosque peut-être pour... Alors, n'hésitez pas à aller vous chercher votre beau cadeau là pour tous ceux qui sont ici. Ça a l'air qu'il y a eu plusieurs nouveaux qui sont allés chercher une tasse à première heure. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce qu'ils sont à vendre, les tasses? Ben, nous, on voulait pas commencer à vendre des tasses, là. Mais bon, si quelqu'un veut les acheter, ça nous coûte à peu près 5$ avec le logo de l'Église et tout ça. Donc, si vous donnez 5$, il n'y a pas de problème. Mais ça nous fait plaisir là, de vous les offrir. Ça va? J'espère que j'ai rien oublié. On va revenir tantôt. Eh bien, l'influence d'une mère, c'est indéniable. Indéniable, ça c'est un absolu, on le sait. L'influence d'une mère, ça c'est, on le sait. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée, une étude nationale, il y a quelques années, a été menée à l'Université du Michigan. Ils ont posé la question à des 11 à 18 ans, à des jeunes filles de 11 à 18 ans. Là, 18 ans, là, ça commence à être pas mal de jeunes adultes. On leur a demandé la question suivante, à travers toute la nation. Là, puis on leur a posé la question suivante. On a dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et savez-vous ce qu'elles ont répondu? 80%. Et ça, c'est 8 filles sur 10. C'est beaucoup, ça, là. 8 filles sur 10 ont dit qu'elles voulaient être comme leur mère. Alors, c'est évident hein, que les mères, vous avez toute une influence sur vos enfants. D'ailleurs, c'est Napoléon qui a dit ceci. L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. Dans un vieux livre juif qui s'appelle le Talmud, c'est très ancien, le livre du Talmud, ce sont des rabbins qui posent des questions et donnent des réponses. Alors, c'est formulé en questions et en réponses. Et l'une des questions qu'on pose, que le Talmud pose, c'est ceci. Qui est le mieux enseigné? Et le Talmud répond, celui qui est enseigné par sa mère. Henry Ward Beecher a dit que le cœur d'une mère est la classe d'école d'un enfant. Même déjà à la création, on voit la distinction. Dieu a donné à la femme des qualités qui leur sont propres pour avoir une belle influence sur leurs enfants. Dieu a créé la femme avec une incomparable et absolument unique capacité d'être mère. Des recherches récentes, d'ailleurs, ont montré, sans l'ombre d'un doute, que les hommes et les femmes naissent avec un ensemble d'instructions clairement différentes. Dans leur code génétique même, c'est là à la création. Des recherches menées à l'Université de Harvard montrent qu'on peut même déjà clairement voir la différence entre les jeunes garçons et les jeunes filles déjà à l'âge de 5 mois. Les petites filles, par exemple, de 5 mois, sont déjà orientées vers les personnes. Elles apprennent plus vite à distinguer les visages. Elles sourient plus que les petits garçons. Elles reconnaissent les voix plus vite des garçons. Elles apprennent plus vite le vocabulaire. De leur côté, les petits garçons sont plus attirés vers les objets. Ils réagissent autant, là, autant avec des personnes qu'avec des objets inanimés. Alors Dieu a en effet créé la femme avec une incomparable capacité d'avoir une influence déterminante dans la vie de ses enfants. Une mère peut exercer une grande influence sur ses enfants dans plusieurs domaines, on le sait évidemment. On peut parler du caractère, de l'amour, de la joie, la maîtrise de soi. Plein de belles qualités qu'une mère peut transmettre, avoir ce témoignage dans le foyer qu'on veut, qu'on regarde. Ces belles qualités de caractère qu'on peut percevoir dans la vie d'une mère. Un tas de choses. Mais comme on va voir dans le livre des Proverbes ce matin, le livre des Proverbes va nous montrer un autre domaine bien important où une mère peut avoir une bonne influence sur ses enfants. Maintenant, pour bien saisir non seulement la profondeur, mais la richesse de ce verset que nous allons voir dans le livre des Proverbes, il faut absolument faire une marche arrière pour expliquer un peu comment ça fonctionne, le livre des Proverbes. Parce que lire le livre des Proverbes, c'est pas comme lire des lettres de l'apôtre Paul, par exemple. C'est différent. Ça a son caractère propre. Ça a un genre particulier. C'est un livre de sagesse. D'ailleurs, il s'inscrit à l'intérieur de d'autres livres de sagesse. On pense à l'Ecclésiaste, le livre de Job. Et Proverbes s'inscrit dans ces livres de sagesse. En lisant les Proverbes, c'est à peu près comme avoir un rendez-vous avec la sagesse. C'est plein de conseils. D'ailleurs, c'est des déclarations conseils. C'est un paquet de petites déclarations ici qui se cumulent de conseils. C'est un livre de recueil de conseils qui va nous aider à mener une vie responsable et une vie réussie. Par exemple, le livre des Proverbes nous aide à comprendre la personnalité du comportement humain. Deuxièmement, il donne des conseils très pratiques pour être heureux. Par exemple, nous lisons dans 1 Roi 4 qu'un des auteurs des Proverbes, c'est le roi Salomon. D'ailleurs, nous apprenons dans 1 Roi 4 qu'il a écrit plus de 3000 proverbes au cours de sa vie. C'était le roi d'Israël. Nous lisons dans 1 Roi 4, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 proverbes et composé 1005 cantiques. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Imaginez d'avoir des gens un peu partout qui venaient juste pour entendre Salomon parler et réfléchir et donner sa vision de la vie et sa vision du monde. Un homme très sage. Mais non seulement ça, plusieurs de ses proverbes ont été recueillis dans le livre des Proverbes et sont inspirés du Saint-Esprit avec d'autres auteurs aussi. C'est un des auteurs très importants des Proverbes. Et les conseils qu'on va retrouver dans le livre des Proverbes vont être déclarés comme des formules, comme des petites phrases qui font des déclarations. Puis à l'intérieur de ces déclarations-là, il y a des conseils. Ça vise justement à nous aider, à aider les parents, à aider les enfants, à avoir de bonnes valeurs, à bien vieillir et à choisir la sagesse. Ce que les proverbes disent, c'est qu'il existe des attitudes fondamentales, de base, élémentaires, et un modèle de conduite qui va aider nous les parents, les adultes et aussi les jeunes à devenir responsables. Et la façon que le proverbe va arriver à ça, sa façon d'écrire, la façon que c'est écrit, le style du livre pour nous aider à mieux comprendre, la façon d'y arriver, c'est que les proverbes vont présenter continuellement des contrastes entre la vie de la sagesse et la vie de la folie. Il va y avoir ce contraste-là qui va revenir plusieurs fois. On va avoir un tas de conseils, des conseils très pratiques. On va parler, on va dire d'éviter, on va nous encourager à éviter les mauvaises fréquentations, chapitre 1. On va parler des bienfaits de la voie de la sagesse, de se confier en Dieu. Et on va faire l'éloge de la sagesse, de veiller sur son cœur, chapitre 4, d'éviter l'immoralité, l'importance d'aimer sa femme, des avertissements concernant les prêts. Oui, ça va même parler de finances, d'argent, de la paresse, le mensonge, chapitre 6. Ça va parler du danger de l'adultère. Il donne des conseils sur la colère, sur les relations humaines, sur les chicanes. Ça nous dit d'être sensible devant les pauvres. Ça va parler de la richesse et ça va parler comment être une bonne épouse, un bon mari. Ça parle de ce passage classique qu'on connaît au chapitre 31 sur la femme vertueuse. Ce qui est intéressant, c'est que le livre de Proverbes ne cherche pas à fuir ce désir inné qu'on a en chacun d'entre nous de vouloir être heureux. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui disent « Ah, ça, c'est pas important, ça, toutes ces choses-là. Il me semble que c'est mondain. » Non, mais le livre des Proverbes ne fuit pas ces choses-là, ce désir d'être bien dans sa peau, d'avoir de l'amour et tout ça. Au contraire, le livre des Proverbes se sert de ces motivations, de ces désirs-là pour nous motiver à rechercher la sagesse et une bonne façon de vivre. Elle va se servir de ces motivations intérieures qu'on a en dedans de nous, ce désir d'être aimé, tout ça, et elle va se servir des motivations aussi extérieures, c'est-à-dire la santé, le succès, la réussite. Et le livre des Proverbes ne fuit pas ça comme si c'était une mauvaise chose. Elle va s'en servir même pour nous donner des conseils. Il nous aide à comprendre donc la personnalité, le comportement humain. Il nous donne des conseils pratiques pour être heureux. Mais encore plus que ça, le livre des Proverbes aussi cherche une autre chose. Le livre des Proverbes veut nous conduire à Jésus-Christ. Jérôme l'a bien dit, être ignorant des Écritures saintes, c'est d'être ignorant de Jésus-Christ. En revanche, plus on connaît les Écritures, plus on connaîtra la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ce que fait le livre des Proverbes. Il cherche à nous conduire vers la personne de Jésus-Christ. En d'autres mots, le livre des Proverbes, lorsque tu le lis, plusieurs chrétiens, j'entends, prennent le livre des Proverbes et vont prendre un proverbe par jour et en font même une requête devant Dieu. Chaque verset devient comme une requête. Et c'est certainement une belle habitude à adopter. Et je vous encourage à le faire. Mais en lisant le livre des Proverbes, on est placé devant un choix. Et la façon que les proverbes sont écrits, c'est qu'ils vont souvent faire des contrastes. D'ailleurs, 90% de plusieurs proverbes sont montés de cette façon-là. Ils vont faire un contraste entre la bonne façon de vivre et la mauvaise façon de vivre. Le sage va agir ainsi. La deuxième portion du verset va dire la folie va agir ainsi. On fait souvent des contrastes. Et l'un de ces contrastes qui va revenir très souvent dans le livre des Proverbes, c'est un contraste entre la sagesse et la folie. D'ailleurs, ce que les proverbes font, c'est qu'ils vont prendre la sagesse, prendre la folie et les incarner. Ils vont donner une personnification de la sagesse et de la folie. On va les appeler, dans le livre des Proverbes, Madame Sagesse et Madame Folie. On nous dit, par exemple, que chacune d'elles, Madame Sagesse et Madame Folie, a construit sa maison. Madame Sagesse et Madame Folie ont construit leur maison. Prenons Madame Sagesse, par exemple. Dans Proverbes, chapitre 9, verset 1, on va nous dire, « La sagesse a construit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. » Et le verset suivant, verset 10, ça dira, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. » Voilà en quoi consiste l'intelligence. Alors, le proverbe ajoute d'autres détails bien importants. On nous dit que Madame Sagesse a construit sa maison au plus haut lieu de la ville et elle nous invite à manger, à souper avec elle. Et là, ça parle d'intimité, de communion, évidemment, dans l'Ancien Testament, dans cette période-là de l'Antiquité. Comme aujourd'hui, lorsque tu invites quelqu'un à manger, dans le fond, tu es en train de l'inviter à entrer dans ta famille. C'est une communion intime. Et là, on nous dit que Madame Sagesse nous invite, elle a préparé un beau mets, un beau festin, et elle nous invite à venir manger chez elle. Nous lisons d'ailleurs le verset 3 qui dit ceci, « Elle crie ». Alors, Madame Sagesse crie, elle invite les gens. Et sur le sommet des hauteurs de la ville, qui manque d'expérience. Alors, on pose la question, qui manque d'expérience? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque d'expérience? Qu'il entre ici, qu'il vienne. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens, « Venez manger de mon pain, boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. » Donc, voici Madame Sagesse qui nous invite. Du haut de sa demeure, elle invite la foule. Elle nous invite à venir, à s'approcher d'elle, de Madame Sagesse, entrer dans son foyer, dans sa demeure. Elle a préparé un beau festin, la bonne nourriture. Elle veut qu'on en profite. Tous sont invités. C'est un appel à s'approcher à Madame Sagesse. Maintenant, qui est Madame Sagesse? Eh bien, le verset 3 donne un détail vraiment important pour nous aider à comprendre. Il nous dit que la demeure de Madame Sagesse se trouve dans les hauts lieux, dans le lieu le plus élevé de la ville. Maintenant, il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit de rester au sommet de la colline. Et c'était qui? C'était le Dieu de la ville. Partout au Proche-Orient, la seule personne qui avait le droit de demeurer au sommet de la ville, c'était le temple, c'était le Dieu de la ville. Et à Jérusalem, là où on a le vrai Dieu qui se révèle dans les Écritures saintes, on a au sommet, qu'est-ce qu'on retrouve au sommet de Jérusalem? On retrouve le temple, la maison de Dieu, la demeure de Dieu. On retrouve Dieu lui-même au sommet de la ville. Alors, Madame Sagesse, qui est au sommet de la montagne et appelle les gens à venir, à s'approcher et se profiter des belles choses qu'elle a préparées, les bénédictions qu'elle a préparées, qu'elle veut nous donner gratuitement. Elle nous invite à venir. Eh bien, Madame Sagesse n'est nul autre que Dieu lui-même. Dieu qui nous invite à s'approcher et à profiter de tout ce qu'il a préparé, ses bénédictions qu'il a préparé pour nous. Mais voilà que Madame Folie aussi s'est construit une maison. Et c'est vraiment intéressant parce que sa maison se trouve aussi au sommet de la colline. Nous lisons par exemple au chapitre 9, verset 13. La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Et il ne sait pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. Celui qui lit les proverbes se trouve donc en face d'une décision. Les deux, la sagesse et la folie, invitent le lecteur à dîner avec elle, à partager son intimité, en d'autres mots, à l'adorer. Parce que, voyez, Madame Sagesse, c'est l'idole, c'est les idoles, les faux dieux. C'est tout ce que je peux mettre à la place de Dieu en premier dans ma vie. Qu'est-ce que je dois choisir? Dieu ou les faux dieux, les idoles? Proverbe nous conduit dans cette direction. Il nous prépare d'ailleurs même déjà dans les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes. C'est le message qui se trouve à l'arrière-plan, si bien que quand on arrive au 10e chapitre et le verset 1, nous lisons ce qui suit. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils stupide, le chagrin de sa mère. À la lumière de tout cet arrière-plan, ce que ça veut dire, c'est que le fils, la fille qui s'approche de Dieu et veut marcher avec Dieu, et l'adore, fait la joie de ses parents. Mais celui ou celle qui choisit l'idole, choisit d'adorer la créature comme l'argent, la sexualité, qui sont des bonnes choses en soi, mais si ça prend la première place dans mon cœur, ça devient une idole. Et si je choisis ce Dieu-là, Madame Folie, c'est le chemin de la folie, c'est la perte. C'est le chagrin de sa mère. C'est plus que des conseils, voyez-vous, qui se trouvent dans le livre des Proverbes. Ce livre cherche à nous conduire vers la sagesse, faire le bon choix, à se diriger vers Dieu qui est le chemin de la sagesse. Il cherche à nous éloigner du chemin de la folie. Le fils sage a montré par son comportement qu'il avait choisi la sagesse, c'est-à-dire qu'il s'était attaché à Dieu. À l'inverse, les enfants qui apportent du chagrin à leurs parents, c'est que leur comportement montre qu'ils ont fait allégeance à Dame Folie, représentation de la divinité païenne, les idoles. Vu sous cet angle, le choix entre la sagesse et la folie, c'est beaucoup plus que quelques conseils pour réussir dans la vie, là. Beaucoup plus que ça. C'est plutôt une question de vie ou de mort. D'ailleurs, Dame Folie mène à la mort. Elle invite des gens à un souper, un magnifique repas, mais ils n'en reviennent pas. Regardez, ils sortent pas du souper. Nous lisons par exemple au verset 18, ceux qu'elle a invités sont dans la vallée, dans les vallées du séjour des morts. Et qui est ce Dieu? Qui est Madame Sagesse? C'est nul autre que Jésus-Christ. Voyez-vous, la Bible est une révélation progressive et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que la sagesse, c'est Jésus. Plusieurs fois, on va dire dans le Nouveau Testament que la sagesse, c'est Jésus-Christ. On va le voir par exemple dans l'Apocalypse 3:14, Colossiens 1:15. Jésus est la sagesse de Dieu dans 1 Corinthiens 1:30 et Colossiens 2:3. Ainsi, lorsqu'on lit les proverbes, à la lumière du progrès qu'apporte le Nouveau Testament à la Révélation, on se trouve face à la même question que les Israélites, mais à une distance près, à une différence près, c'est Jésus-Christ. Choisirons-nous de manger avec Dame Sagesse ou Dame Folie? Allons-nous choisir de marcher avec Jésus-Christ? Allons-nous choisir Jésus-Christ ou le monde, la sagesse? La sagesse qui nous appelle n'est nul autre que Jésus. Tandis que la folie qui tente de nous séduire est toutes les autres choses créées, toutes les autres choses que nous mettons à la place du Créateur. Quel est donc notre rôle? Notre rôle de parent, le rôle de maman. Quel est notre rôle? Est-ce qu'il y a un rôle? Est-ce qu'il y a une influence qu'on peut jouer? une influence qu'on peut avoir envers nos enfants au sein du foyer. On sait bien que chaque enfant décidera de suivre ou pas. Ça dépend de la grâce de Dieu, évidemment. C'est un miracle. Chaque conversion est un miracle. C'est la souveraineté de Dieu. Mais en même temps, comme parents, nous pouvons jouer un rôle important au sein du ménage, au sein du foyer. Maman, vous avez un rôle tellement important à jouer au sein de votre foyer, comme on va le voir dans un passage qui va suivre. Proverbe 10 dit, un fils sage, comme on l'a dit tantôt, fait la joie d'une mère, d'un père, et un fils stupide, le chagrin de sa mère. Maintenant, quelle est notre part là-dedans? Est-ce qu'on peut influencer nos enfants? La réponse se trouve dans le chapitre suivant, au chapitre 11, verset 30. Et moi, j'aimerais vous inviter ce matin à vraiment tourner dans ce passage, Proverbe chapitre 11, verset 30, que je vais vous lire. Proverbe 11, verset 30, qui dit ceci. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Je relis. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Un dénommé Lee Field s'est vraiment arrêté longuement sur ce proverbe, d'ailleurs particulièrement sur ce verset-là. Il a fait une analyse pas mal, une recherche pas mal poussée, détaillée. Je vais vous épargner tout ça. Et c'est pas juste une question d'étude des mots hébreux dans l'original et tout ça. C'est aussi comment les expressions sont employées dans la Bible et tout ça. Et il a écrit un bel article d'à peu près 30 pages, une vingtaine de pages. Et je vais simplement vous donner la conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? En gros, voici comment comprendre le verset. En marchant avec Dieu, une mère, et on va dire les mères, c'est tout le monde, en fond, mais appliquons-le à la mère. En marchant avec Dieu, une mère porte de beaux fruits que son enfant voudra rechercher à son tour, on l'espère, et les trouvera en Dieu. On va l'expliquer. Mais je vais juste faire la déclaration, d'accord? En marchant avec Dieu, une mère porte de beaux fruits que son enfant, on espère, recherchera à son tour, et les trouvera en Dieu. Voyez-vous, la mère qui marche avec Dieu produit de beaux fruits qui inspirent ses enfants à marcher avec Dieu. C'est ça que le verset est en train de nous dire. Voici le sens du proverbe. La personne qui marche avec Dieu portera du fruit. D'accord? Le juste. La personne qui marche avec Dieu portera du fruit. Ce fruit, c'est un arbre de vie. Et tout comme un bon arbre qui a ses fruits, elle bénit non seulement le propriétaire de l'arbre, mais les gens autour. Elle fait du bien même aux gens autour. Par exemple, moi, si j'ai un panier chez nous qui est en pleine santé, il me donne, je sais pas, moi, 300 pommes, c'est beaucoup pour chez nous. Alors, ce qu'on va faire, ça va tomber chez les voisins, on va donner des sacs un peu partout. On voit ça des fois, des gens qui arrivent ici, donnent des cocombes et tout ça avec leur jardin. Donc, leur arbre produit du fruit, ces fruits bénit les autres autour. Et c'est ça là, que le verset est en train de nous dire ici, d'accord? L'arbre, c'est une bénédiction. Il est une source de bonheur pour les gens autour aussi, pas juste pour elle. Regardez bien, comme je le disais depuis tout à l'heure, les proverbes sont écrits avec deux déclarations. Dans ce cas-ci, on va le détailler pour que vous puissiez le voir en deux. On va les appeler A et B. La première ligne du proverbe dit ceci, la première partie du verset, anticipe les bénédictions pour les autres à marcher avec Dieu. Si je marche avec Dieu, les autres vont en profiter. Essentiellement, c'est ça que ça dit. Quand tu marches avec Dieu, d'autres aussi sont touchés, sont bénis par ça. La deuxième partie du verset montre que la personne qui suit l'exemple de celui qui marche avec Dieu et qui cherche les mêmes bénédictions est sage. En d'autres mots, c'est un peu comme si ta mère qui marche avec Dieu répand des bénédictions, un bel arôme, des beaux fruits dans la maison. L'enfant qui regarde ça, qui désire ce fruit-là, on parle peut-être d'Éphésiens 5, 22 et tout ça, les fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la paix dans son cœur, des beaux fruits qu'elle répand, cette bénédiction qu'elle a et qu'elle devient au sein de son foyer. L'enfant qui regarde ça, qui veut saisir ce fruit-là, qui veut ces fruits-là pour sa propre vie, lui est sage. C'est une bonne chose qu'ils veulent les bénédictions de sa mère qui marche avec Dieu, qui voit les fruits d'une personne qui marche avec Dieu et qui le veut pour lui, qui veut le saisir, s'agripper à ce fruit, le prendre. Et c'est certain qu'il est en train de faire un lien ici avec le jardin d'Éden, la bénédiction du jardin d'Éden. Et quand on prend ce beau fruit, le jeune qui décide finalement d'avoir ce Jésus-là, le Jésus de ma mère, je vois ce que ça fait dans la vie d'une personne, l'Évangile, et l'enfant qui voit ça, qui décide de le prendre pour lui, lui est sage. La Bible dit, voilà un fils sage, voilà une fille sage. Mon ami, c'est encourageant, c'est très encourageant. Voici donc une traduction qui rend le sens de ce verset-là, le fruit du juste. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui saisit son fruit est sage. Voici un fruit qui est bon, et il est sage de saisir ce fruit, de le cueillir pour avoir le bonheur, la bénédiction dans sa vie. Eh bien, c'est ça, que les enfants cueillent ce fruit. Si tu veux la bénédiction, le bonheur, viens à Jésus. Et le message pour maman, c'est ceci. C'est que la vertu répand ses bénédictions. Combien de fois on entend des gens, mettons, qui vont se faire baptiser, s'ils vont donner leur témoignage, puis ils vont dire, sais-tu, je travaillais avec un chrétien, puis je voyais qu'il avait une paix dans sa vie. Moi, je voulais avoir cette paix-là. Je comprenais pas. Oh, écoute, je travaille dans le même milieu. Là, c'est stressant, c'est vraiment pas facile, mais ça veut pas dire qu'il est parfait. Mais ce que je voyais, il y a un dénominateur que je voyais souvent, c'est cette paix-là qu'il avait. Puis moi, je voulais avoir cette paix-là. Voyez-vous? La vertu répand ses bénédictions. Elle répand cette bonne odeur de l'Évangile, les beaux fruits de l'Évangile que je vois dans ta vie. Je le veux, ça. Ça m'attire. Je le veux pour moi. Et ça, c'est l'influence que tu peux avoir, maman, au sein de ton foyer. De marcher avec Dieu. Il y a une dame qui est venue me voir après le premier service, puis c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, bon sang, elle dit, ça m'encourage tellement, ce proverbe-là, parce qu'elle dit, il me semble, à un moment donné, des fois, tu te demandes, ça vaut-tu la peine de faire tout ce qu'on fait pour nos enfants, puis tout ça. M'a dit, ça me rappelle. Oui, ça vaut la peine. Oui. Tu es en train de répandre une bonne odeur au sein de ton foyer lorsque tu marches avec Dieu. Et ça, quelque part, l'enfant voit ça. Peut-être qu'il va faire un détour. Ben oui. Mes enfants, quelques-uns de mes enfants ont fait des détours. Ils sont venus plus tard. On vous le souhaite. Parfois, ils ne reviennent pas, malheureusement. Ça nous rend triste. Ça fait le chagrin de sa mère, n'est-ce pas? Mais ça, ça appartient à Dieu. Faut pas se culpabiliser de ça. Ça appartient à Dieu. Dieu est souverain. C'est Dieu qui sauve. Mais toi, tu peux, par exemple, certainement répandre cette bonne odeur de l'Évangile et être une bénédiction dans ton foyer. Amen. Eh bien, Seigneur, merci pour nos mamans. Merci parce qu'elles répandent tellement une belle odeur de patience envers nous, d'amour. Et même quand on fait des bêtises. Je me rappelle une fois, j'avais fait une bêtise, Seigneur, et une voisine disait à ma mère comment j'avais besoin de toute une correction. Et ma mère ne m'a pas donné de correction, elle m'a juste regardé d'un air triste. Et combien ça avait parlé à mon cœur. Et des fois, j'ai mérité des corrections, Seigneur. Et c'était bon que j'en reçoive de temps en temps. Mais d'avoir ces mères qui sont modèles pour nous, combien c'est important. Et surtout, Seigneur, cette plus belle influence qu'on peut avoir à nos enfants, envers nos enfants, c'est de les conduire à Jésus-Christ. C'est leur donner cette belle odeur de l'Évangile, ce beau fruit de l'Évangile. Et on prie pour nos enfants. Il y a des parents ici qui sont peut-être tristes, qui ont vu leurs enfants s'éloigner de toi. On te prie pour eux, Seigneur. On te prie que tu puisses mettre ta bonne main sur les familles de cette Église, que tu puisses les bénir abondamment. Que tu puisses consoler les mères aussi en ce moment qui, peut-être, c'est une journée difficile pour elles. Veuille leur faire du bien en cette journée de la fête des mères. Merci, Seigneur. Et merci parce que même si on n'a pas eu une mère, peut-être, qui marchait avec toi, combien c'est bon de faire partie de cette Église où il y a plusieurs mères spirituelles qu'on peut regarder, qu'on peut voir et qu'elles sont une bénédiction pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. On te prie de bénir les mamans ici ce matin et que nous, comme dans le foyer, les enfants et les maris, que nous puissions être une bénédiction pour elles. Merci d'avoir créé la famille. Et aide les mamans ici. Aide les mamans avec cette belle responsabilité de pouvoir répandre les fruits de l'Évangile au sein de leur foyer. Au nom de Jésus. Amen.